J'invite Teresa Castro à venir nous rejoindre et s'installer. Et je profite de ce petit moment donc pour l'introduire. Elle va nous présenter un moment avec beaucoup de petits extraits de films qu'elle va nous montrer. Et ça tombe très bien que la nuit commence à s'installer. Elle parlera sous le titre « Le cinéma et quelques-unes de ses fables végétales ». Tu as changé ça ? Bon, tu raconteras. Dans le cadre de recherche ample qu'elle est en train de mener justement autour du végétal à l'écran, des plantes au cinéma et du lien entre le cinéma et l'animisme. Elle a notamment organisé à la fin de l'année 2016 un grand colloque à Paris 4, Paris 3, sous le titre « Puissance du végétal, cinéma, animiste et anthropologie du vivant ». Et elle continue à mener des recherches justement sur ce lien entre le cinéma et l'intérêt pour le végétal et les plantes. On va plutôt parler après que maintenant. Si j'ai bien compris, on va voir beaucoup de petits extraits de films. Et il y aura notamment des moments de traduction live. On ne sait pas encore.
Oui, tu disais tout à l'heure que c'était la première fois que toutes les communications seraient en français. Mais j'ai choisi des films non sous-titrés en allemand pour... voilà. Cela dit, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout montrer. Et je peux aussi montrer des passages dans ces films où il n'y a pas d'échange. Je vais donc faire une présentation, un parcours qui est un tout petit peu impressionniste. Hein. Ce n'est pas une présentation très académique. Je vais suggérer toute une série de choses par rapport à cette question des fables végétales du cinéma. Donc, comme Lotte le disait, je vais rappeler ça très vite. Hein. Je m'intéresse depuis un moment à ce que j'appelle les théories et pratiques animistes du cinéma. Et dans le contexte de ce travail qui dépasse largement la question du végétal, je m'intéresse aussi à des problèmes d'objets, des problèmes de subjectivité machinique de la caméra, etc. Je suis venue à m'intéresser à la question des plantes et du végétal. Et donc c'est de ça que je vais un tout petit peu vous parler aujourd'hui. Et je vais essayer aussi d'insister sur la question des liens végétal-féminin au cinéma, parce que Lotte me l'avait demandé, et parce qu'effectivement je suis tombée sur quelques exemples qui sont assez intéressants. Alors, juste une autre chose qui me semble importante, dans ce travail que je suis en train de faire, je dialogue beaucoup avec l'anthropologie, et d'ailleurs le colloque que rappelait Lotte avait été un moment assez intéressant parce que je l'avais co-organisé entre autres avec un collègue anthropologue. Et donc il y a toute une série de références de l'anthropologie qui sont pour moi très importantes. Je vais rappeler dans un instant quelques références qui sont à la fois de la philo et de l'anthropologie, en sachant que dans ces deux domaines il y a aujourd'hui énormément d'écrits sur la question végétale qui me semblent extrêmement intéressants, et des écrits notamment qui nous permettent de repenser une autre question qui est essentielle dans cette histoire, qui est celle de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le vivant? Donc je vais aussi un tout petit peu insister sur ça. Alors je vais aussi me concentrer sur le végétal et je vais laisser les champignons de côté, hein, parce que les champignons c'est encore autre chose. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir très rapidement certains épisodes, hein. Je vais me concentrer sur le tournant du XXe siècle, les années 20 et les années 70, pour essayer justement de voir quels sont les pouvoirs figuratifs et fictionnels de ces formes végétales au cinéma, en insistant donc, comme je le disais, sur la façon dont ces pouvoirs figuratif et fictionnel reviennent souvent sur la question de la définition de la vie, de la métamorphose aussi, comme on va voir. Et il faudrait comprendre la vie non seulement au sens biologique du terme, biologique et anthropologique, mais aussi en termes de vie des formes. Je suis très contente de voir qu'il y a une spécialiste de l'ornement dans la salle, parce que je vais un tout petit peu parler d'ornementation, elle en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais cette idée aussi de la vie des formes est pour moi très très importante, en sachant que cette vie végétale constitue par définition un problème de forme, puisque les plantes sont des êtres qu'on appelle autotrophiques, c'est-à-dire des êtres qui synthétisent leur propre matière organique, hein, ça s'appelle la photosynthèse, hein, nous on ne fait pas ça. On est des êtres hétérotrophiques. Et donc, la plante vraiment est une question de forme. Hein. Alors, il y a un philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Emmanuel Ecoccia, qui a écrit un très beau livre paru l'année dernière qui s'appelle La vie des plantes, qui insiste vraiment sur ça, sur cette idée que la vie des plantes est une vie plastique. Et donc, cette question de l'esthétique est effectivement donc très, très présente dans la question du végétal. Hein. La question des formes, la question de l'esthétique est une question de vie ou de mort, hein, pour la vie végétale. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a notamment été très bien expliqué par Ecoccia dans ce livre-là. Alors, ça me permet justement de rappeler son travail, tout comme le travail de Michael Marder, A Philosophy of Vegetal Life. Il faut savoir que pendant des siècles, c'est plutôt le domaine de la philosophie qui s'est saisi de ces complexités de la vie végétale, en se posant la question, je vais y revenir parce que le cinéma a joué un rôle très important en fait dans les années 20, autour de la remise en circulation de cette idée, mais donc c'est la philosophie qui s'est intéressée depuis Aristote à la question de l'âme végétale. Et c'est une question intéressante, comme vous allez voir. Puisque les plantes, alors leur absence de locomotion, donc d'automouvement apparent, a conduit pendant très longtemps à considérer les végétaux comme des êtres vivants inférieurs, notamment par rapport aux animaux. Et donc cette question est intéressante aussi à poser par rapport à certains exemples cinématographiques que je vais vous montrer plus tard, et qui permettent justement, qui vont permettre dans les années 20 de faire redécouvrir la vie, voire l'âme végétale à ce moment-là. Et disons que cette histoire intellectuelle est beaucoup plus complexe que ce que je vais pouvoir vous raconter pendant 40 minutes, mais bon, je vais quand même en parler un petit peu. Et donc, Michael Marder et Emmanuel Ecoccia, en fait, leur travail illustre vraiment aussi aujourd'hui cette espèce de révalorisation et reconsidération du végétal. Certaines personnes parlent d'un tournant végétal. D'autres anthropologues ont commencé à penser la vie comme un processus sémiologique, comme une question de production de signes. Et donc, notamment, quelqu'un comme Eduardo Cohn, dont le livre a été traduit cette année en français, dans Comment pensent les forêts, justement avance cette idée du végétal comme étant capable de produire de la pensée. Alors, pour faire très vite, comme étant capable de produire des signes, en s'appuyant notamment sur les travaux de ce biologiste qui est Daniel Chamovitz, What a Plant Knows, A Field Guide to the Senses. J'évoque tous ces travaux parce que vous allez voir, dans les années 70, il y a un tournant assez intéressant, un peu loufoque et post-hippie aussi, mais qui est important dans cette histoire de comment on est venu à penser et à argumenter la sensibilité, la sentience des êtres végétaux. Et le cinéma, encore une fois, a joué un rôle là-dessus. Donc, c'est pourquoi je suis en train de rappeler tout ça. Ça va faire du sens plus tard. Et juste pour conclure sur les références, alors, Natasha Myers est une anthropologue canadienne, qui a créé ce Plant Studies Collaboratory que vous pouvez consulter en ligne sur cette question aussi des écologies affectives. Alors, il s'avère que par ailleurs, Natasha Myers a une formation de danseuse et que donc ce qui l'intéresse en partie aujourd'hui dans son travail, c'est de comment faire quelque chose d'assez chimérique aussi qui serait caler les rythmes humains et les rythmes végétaux. Et elle se saisit notamment de la danse parfois pour essayer de faire ce travail, mais donc vraiment aussi penser le végétal au sein de ces écologies affectives, c'est encore une autre possibilité et ce serait encore une fois un autre lien intéressant par rapport au cinéma. Vous allez voir que ces problèmes de rythme reviennent très régulièrement. Et enfin, dernière référence, ce livre de Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. Bon, comme c'est des champignons, je vais pas en parler puisque j'avais dit que je parlerais pas de champignons et je vais avancer. Je vais avancer et je vais commencer en fait par rappeler, donc je vous avais dit que j'allais me concentrer sur trois moments. le premier moment étant le tournant du XXe siècle. Sauf que pour moi, les questions sont toujours des problèmes de culture visuelle. Et donc, pour comprendre en fait ce que le cinéma va proposer autour du végétal et des femmes au début du XXe siècle, il faut reculer en tout petit peu. Et donc, je vais vous parler de cette question. Alors, très mal, je suis presque embarrassée de le faire devant Hélène Grignard, qui est ici, qui est vraiment cette spécialiste de l'ornement. Mais il faut évoquer effectivement ce problème de l'ornementation et rappeler à quel point cette question a été extrêmement présente dans la culture visuelle de cette époque-là. Et c'est très intéressant aussi par rapport à ce que j'étais en train de dire sur les liens entre les formes de vie et les formes esthétiques, parce que ce lien constitue véritablement l'axe des recherches de ce biologiste et philosophe allemand qui est Ernst Haeckel, qui va s'appuyer sur la théorie évolutionniste de Darwin. Darwin, ce serait aussi un personnage intéressant à rappeler dans cette histoire, mais je n'ai pas le temps. Donc, il va s'appuyer sur Darwin et sur les travaux de Goethe sur la métamorphose des plantes, pour élaborer une esthétique assez originale de la nature et envisager ces formes génératives et transformatives de la vie biologique sous cet angle artistique et ornemental. Donc, la question du végétal y est absolument centrale. Donc vous pouvez voir de façon très claire à quel point cette question des formes végétales est clairement ici une question aussi de forme esthétique. Cette question de la métamorphose et de la transformation est très très importante pour comprendre justement les exemples cinématographiques que je vais vous montrer. Il faut savoir aussi bien sûr que ces travaux vont avoir un impact assez considérable sur la culture visuelle plus tardive, et notamment ces planches, donc les planches de ces atlas illustrés, seront alors reprises ou presque, vont constituer la source d'inspiration de ce photographe aussi allemand qui est Karl Blossfeld, qui va donc faire ce travail dans les années 20 autour des formes végétales. Je vous parle de choses qui sont très très connues, mais il faut avoir ça en tête, vous allez voir, parce que ces images vont dialoguer, je pense, très bien avec quelques exemples cinématographiques que je vais vous montrer dans pas très longtemps. Donc il faut savoir justement que dans cette culture visuelle, dans ce contexte visuel du 19e siècle, la question de l'ornementation est très très présente. Elle va être bien sûr refoulée au début du 20e siècle, c'est-à-dire le modernisme va s'attaquer, comme vous le savez très bien, à la question de l'ornement. Mais cette question est très très présente à ce moment-là. Le végétal y joue un rôle absolument considérable. Et je vais le dire dans un instant, donc le végétal, c'est bien sûr le floron, la fioriture et le fleuri. Le végétal, c'est aussi le féminin. Et l'ornement est bien sûr ce qui est accessoire, secondaire, supplémentaire, périphérique, féminin et plaisant à regarder en termes de théorie esthétique de cette époque-là. C'est pas Teresa Castro qui est en train de défendre ce point de vue. Mais donc ces liens existent de fait à cette époque-là. Et cela est très intéressant, comme vous allez le voir dans un instant. Je voulais juste profiter aussi de ce moment, de ce rappel autour de ce qui se passe au XIXe siècle, pour vous rappeler une autre chose qui est très très importante, qui est donc la façon dont les origines de la photographie renvoient aussi à cette question des femmes botanistes. Alors, Anna Atkins, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà donc les cyanotypes qu'elle va produire dans les années 1840. Elle est souvent citée en fait comme étant la première femme à réaliser des photographies. Donc c'est la fille d'un scientifique au départ donc elle aide son père à faire ses études et elle va notamment les illustrer. Il faut savoir que tout au long du 19e siècle, il y a énormément de femmes, qu'elles soient les filles ou les femmes d'eux, qui vont soit illustrer des travaux de botanistes, soit les photographier. Elles sont les petites mains en fait qui vont effectuer ce travail et c'est extrêmement intéressant et là-dessus aussi il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire. Donc Anna Atkins va commencer par réaliser ses cyanotypes notamment d'algues mais pas que Avant de devenir elle-même donc une botaniste, donc c'est une ce processus est assez particulier. Hein, le cyanotype, on appelle ça aussi le dessin photogénique. C'est une photographie par impression qui ne peut pas être donc reproduite. Et donc ces images sont extrêmement belles. Et donc c'est une façon juste pour moi de rappeler à quel point aussi à ce moment aussi qui est donc disons cette deuxième moitié du 19e siècle, ces liens entre le végétal et le féminin sont extrêmement présents. Ça se décline donc de façon parfois très très différente. Mais voilà, je voulais aussi le faire. Donc je reviens sur cette question alors de l'ornement du végétal et du féminin. Je ne vais pas, disons, retracer toute cette histoire qui est absolument passionnante. Je vous montre cette image de 1915 qui en fait illustre quelque chose que nous avons tous vu déjà à un moment ou à un autre. Ce qui me semble ici intéressant, encore une fois, c'est ce problème de la métamorphose. Hein. Donc l'association vraiment entre la figure féminine et le végétal. Hein. Cette idée que donc la plante peut devenir femme et vice versa, et c'est notamment l'idée centrale dans ce travail de Granville qu'il va publier en 1846-47. Donc vous voyez, ce travail est absolument contemporain des photographies de Hannah Atkins, et ça me semble aussi intéressant, qui s'intitule Les fleurs animées. Donc vous connaissez, je pense, aussi Granville, qui est un caricaturiste, illustrateur et lithographe français, qui va publier ce livre où, basiquement, on y voit un livre qui est adressé au public féminin. Un livre en trois volumes, par ailleurs, que vous pouvez consulter sur le site Gallica de la BNF. Et donc, juste une précision, vous avez dans ce premier livre, effectivement, toutes ces illustrations qui sont aussi relativement connues. Et donc, le deuxième volume s'intitule « Botanique des dames » et le troisième « Horticulture des dames ». Et donc les dessins sont censés mettre en valeur les charmes de ces femmes fleurs, de ces femmes plantes. Elles illustrent particulièrement bien cette idée de métamorphose. Et donc cette association, cette espèce de confluence vraiment entre la question ornementale, végétale et féminine. Je vous montre encore deux images avant de continuer. C'est le soleil. Je trouve cette image absolument... Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas m'y attarder. Donc la légende, c'est soleil. Et juste, parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de faire juste des petits rappels autour des champignons. Alors ça, c'est un autre ouvrage qui s'appelle En autre monde. Il y a tout un chapitre qui s'intitule Une révolution végétale. Et on y retrouve notamment ce type d'illustration. C'est une bonne illustration, bon, comme tous les autres, pour insister sur quelque chose qui est relativement connu aussi, à savoir l'importance de Granville pour Disney. Hein. Et c'est quelque chose sur laquelle Sergei Eisenstein, célèbre cinéaste soviétique, il l'avait déjà compris. Donc Eisenstein s'intéresse beaucoup au travail de Granville parce que Eisenstein est passionné par la question de la métamorphose et de la transformation incessante des formes qui prend dans son travail en fait des contours très très différents. Mais donc il s'intéresse beaucoup à Granville et comprend très très clairement que ce travail à la fois anthropomorphisation du végétal, mais aussi de métamorphose, est absolument central dans le travail de Disney.